popopiennes, popopiens et tous les autres aussi, bonjour. Il ne faut jamais en rester à des a priori. Exemple, aujourd'hui encore, je suis un homme d'un certain âge, disons un homme mûr, tellement mûr d'après Charline Roux que le moment approche où je vais me décrocher de l'arbre. En tout cas, un homme qui certes est toujours aussi passionné par les romans de chevalerie et ou d'aventure, mais qui coince un peu dès qu'il est question de fantaisie médiévale, de médiéval fantastique, d'individus de petite taille à oreilles pointues, de malbêtes, de sorciers, de boucs grand format, sans parler d'éventuels dragons à double fonction, barbecue et lance-flammes. Oui, généralement, c'est là que vous me perdez et que je me replonge, par exemple, dans Connemara. Non pas la chanson de Sardou, le nouveau et prodigieux roman de Nicolas Mathieu dont nous reparlerons très prochainement. Et puis, grâce à notre influenceuse maison, la jeune Juliette, 12 ans, et l'entremise sournoise de sa momo, j'ai découvert Bergère Guerrière, les idoles de la génération des 8-12 ans, qui m'ont pris par la main pour m'embarquer dans leurs folles aventures, dont le tome 4 et final vient de sortir, ce qui est donc à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Et nous en parlons aujourd'hui avec leurs deux parents, Amélie Fléchet et Jonathan Garnier. Cette émission a pour titre « L'étoile de la bergère est guerrière » et pop pop pop, et ben c'est parti.
France Inter, pop pop pop, Antoine de Gaulle.
Bonjour Jonathan Garnier.
Bonjour.
Dites-moi, vos cheveux ont l'air ultra doux.
N'est-ce pas?
Je peux toucher?
Oui, oui.
Ah oui, mais ils sont vraiment très très doux.
C'est pas très Covid, je vous trouve.
Bonjour Amélie Fléchet.
Bonjour.
Rien à voir avec les mots?
Je m'y attendais pas à celle-là.
Ah, les mots fléchés, vous savez, comme dit Fanny Ardant. Ouais. Non, rien à voir. Rien à voir, car vous êtes dessinatrice, Amélie, et vous, Jonathan, scénariste. Et vous venez nous présenter tous les deux le tome 4 de Bergère Guerrière, qui est disponible chez Glénat. Nous allons en parler jusqu'à 17h. Alors Amélie, Jonathan, je vois que vous vous regardez langoureusement tous les deux, et mon petit doigt me dit que vous ne respectez pas scrupuleusement les fameux gestes barrières. Est-ce que c'est cette BD qui vous a rapproché à ce point?
Alors, c'est pas cette BD, mais c'est ce métier en tout cas.
Mmh.
Donc,
Des détails.
Je raconte.
Bah oui, évidemment, vous racontez.
Ouais, en fait, avant d'être scénariste, j'étais éditeur. Mmh. Et en fait, je cherchais surtout des jeunes talents. J'étais dans une maison d'édition en Kama, qui n'était pas une grosse structure, donc je voulais pas non plus démarcher des grands noms de la BD. Je me suis dit, ils sont déjà sûrement très bien là où ils sont. Et donc, Amélie fait partie des jeunes talents que j'ai démarchés. Et à l'époque, terminer ses études. Et il s'avère que ben en fait j'avais un frigo, un lave-linge et que j'étais plutôt un bon parti pour elle, donc voilà.
Aussi, OK, la version d'Amélie s'il vous plaît.
Oui. Il faut dire aussi qu'on vivait tous les deux à Roubaix, qui est une ville qui est pas très romantique. Mm-hmm. Et je pense que ça nous a un peu rapproché de se retrouver là-bas.
Sacré délire.
Ouais. Le frigo.
Vrai, le lave-linge, ça a été quand même un sacré argument.
Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes nantais tous les deux. Bon, avant de parler de sujets sérieux et de cette BD, j'aimerais savoir quelles sont vos mauvaises résolutions pour 2022. Oui, nous ne sommes que le 4 janvier, mais je ne supporte déjà plus la bienveillance dans ce début d'année. Alors, Jonathan?
À moi de ne pas prendre, en fait. De ne pas faire des résolutions du tout.
Pas voilà, prendre de résolutions.
D'être feignant si j'ai envie d'être feignant. De ne pas faire de sport quand j'en ai pas envie. Et voilà.
Très bien, ça me plaît. Et vous, Amélie?
Moi, ma mauvaise résolution, c'est de travailler le moins possible cette année.
Mm-hmm.
Donc, pour l'instant, je m'y tiens.
Très bien. De toute façon, avec le succès de Guerrière Fermière, vous n'avez pas... J'ai bien dit Guerrière Fermière. Bergère Guerrière. Non, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit Fermier. Ma mauvaise résolution à moi, c'est de continuer à vous faire écouter de la bonne musique. Et quand je vous vois... Enfin, surtout quand je vois votre album Bergère Guerrière, je pense tout de suite aux Rock Farmers, voilà.
Wow.
On y est, du groupe The Inspector Clouseau. Alors pour commencer, je vous propose d'écouter non pas le morceau Rock Farmers, mais Little Girl and the Whistling Train.
Little girl wants to look around. Little girl just hears a sound. Today is the day of the whistling train. Today is the day of the blowing rain. Sound.
Little Girl and the Whistling Train, c'est un morceau signé The Inspector Clouseau. C'est un groupe qui fera toujours partie de notre playlist en 2022. Amélie Fléchet, Jonathan Garnier, avant de parler de votre BD Bergère Guerrière, parlons un peu de BD tout court. Alors, votre BD a été sélectionnée dans la catégorie 8-12 ans du Festival de la BD d'Angoulême 2022 face à 7 autres BD. Qu'est-ce qu'elles ont de si particulière, ces Bergères Guerrières, pour plaire autant à la fois au public et aux professionnels de la profession, à votre avis?
Bonne question. On comptait sur vous pour nous le dire, mais.
Vous avez peut-être fait une petite idée, parce qu'on en est au quatrième tome.
Ouais, non, je pense c'est le fait que, un peu comme nos références, enfin, toi, c'était beaucoup, t'as grandi avec Harry Potter, moi, le Seigneur des Anneaux qui se voulait pas forcément jeunesse, mais le fait qu'on met pas de limite, en fait, dans les thématiques, dans les façons de les aborder, et je pense que c'est ce qui fait que ça plaît aussi aux adultes, en fait. Mm-hmm. Les adultes peuvent s'y retrouver. On a aussi beaucoup de personnages adultes, en fait. On n'a pas voulu faire des enfants qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, en fait. On a voulu des enfants qui ont des réactions réalistes, en fait, qui ont peur, qui doutent, et qui ont besoin aussi d'adultes pour grandir, en fait, pour pouvoir se projeter. Donc, je pense que c'est un peu le côté intergénérationnel, en fait. Et je pense les enfants, le fait qu'ils aient un récit qui soit, qui prennent pas pour des idiots, je pense, qui osent un peu, en tout cas, aborder des choses assez assez rudes. Et moi, j'ai des souvenirs de lecture vraiment, enfin, ou même j'étais fasciné par des films comme La Cité des Enfants Perdus, sans même le voir, mais juste l'imagerie, tout me fascinait. Enfin, il y avait des choses comme ça qui me prenaient un peu aux tripes, en fait. Et
Amélie, c'est une analyse qui vous convient?
Oui, totalement. Mais c'est vrai qu'aussi, on s'est interdit d'avoir une résolution naïve de l'histoire. Et je pense que ça aussi, ça a pu plaire aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Mm-hmm. Justement, oui, d'aborder des thématiques sombres et d'aller au bout. Et puis, après, je sais pas, je pense que c'est un peu aussi l'alignement des étoiles. Hein. On sait jamais ce qui fait un succès. Donc, il y a beaucoup de chance aussi derrière.
Oh, il n'y a pas que de la chance, il y a beaucoup de talent. Ce festival de la BD d'Angoulême est le rendez-vous des fans de BD, mais ceux-ci devront attendre un peu, car la 49e édition prévue initialement fin janvier vient d'être reportée, manifestement à cause d'un certain virus. Comment est-ce que vous vivez ce coup dur? Parce que je sais, Amélie, que vous aimez rencontrer les lecteurs, et parce que c'est un métier très solitaire, dessinatrice pour la BD. Alors, comment ce fameux report d'Angoulême, ça vous affecte? Ça vous...
Forcément, parce qu'en plus, pour une fois, enfin pour la première fois en tout cas de nos vies, on est en sélection, et c'est quelque chose d'assez incroyable dans la vie d'auteur, c'est vraiment une consécration. Donc là, le fait qu'Angoulême soit reporté, on a très peur que ce soit comme l'année dernière, qu'il n'y ait pas du tout de festival cette année. Et puis, bah, donc, ce serait un petit peu dommage. Et puis, bah, ça nous coupe aussi, oui, de la rencontre avec nos lecteurs. Parce que même, du coup, l'année passée, on a fait juste une séance de dédicace.
Ouais.
C'est un peu... Enfin, c'est trop peu pour avoir des retours.
T'as un métier très solitaire hein, que celui de dessinatrice. Est-ce que c'est pour cette raison que votre amoureux est votre scénariste? Ou c'est parce que votre scénariste est votre amoureux?
On partage cette
solitude. La question alors, dans le sens qui vous plaît.
Après, on peut travailler en atelier avec d'autres artistes, donc du coup, c'est un peu moins solitaire.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça aide de partager cette passion-là avec son conjoint.
Parce que vous savez que vous travaillez ensemble et vous vivez ensemble, et certains disent, un ami à moi notamment, que c'est une recette pour le désastre.
Beaucoup de gens sont étonnés, c'est vrai que des fois quand on en parle, des gens disent qu'ils ne pourraient même pas travailler dans la même pièce, même pas forcément sur le même projet, mais non, j'avoue que ça va. On met un peu nos casques quand on veut écouter la musique, on n'a pas forcément toujours... On s'entoure sur la musique, mais des fois, certaines choses...
Et puis, on a des rythmes décalés aussi. Jonathan est un vampire qui vit la nuit, et moi, je vis plutôt la journée.
Jonathan est un vampire qui vit la nuit.
Voilà. Donc, voilà. On a nos moments en nous, quand même, malgré tout.
Là, je peux pas en juger avec le masque, là, mais j'imagine très bien. Ouais. C'est longue canine. Jonathan, cette potion magique de la BD, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, en dessinant Mickey, Dragon Ball, ou encore lui.
It's me, Mario.
Alors d'où vient cette passion pour le plombier le plus connu de la pop culture?
En fait, c'est vraiment le premier jeu vidéo que j'ai connu. Je me rappelle vraiment, j'ai une idée très précise du moment où on a vraiment la première fois allumé la NES sur une grosse télé, voilà, c'est plus du tout les... C'est pas la même technologie, et que voilà, ça s'est lancé ce son-là, justement. Et côté jeux vidéo, c'est vrai que c'est une forme d'art qui est hyper riche aussi, et qui, on a vraiment une interaction avec les personnages, enfin, voilà, qui sont des avatars pour beaucoup. Donc il y a un côté hyper ludique et hyper riche, en fait, ça mélange la mise en scène, du son, enfin c'est...
Vous avez tout de suite su que vous en feriez votre métier?
Alors moi, le dessin, oui. Alors ce qui fait que j'ai semi-échoué, je suis devenu auteur, mais pas dessinateur, voilà. Mais oui, depuis gamin, je voulais être dessinateur de BD, j'ai eu des parents, j'ai de la chance qui ont...
Vous avez commencé par dessiner?
Oui, c'est ça, ouais.
Et comment s'est passé la bascule, alors?
En fait, j'ai fait plutôt des études de graphisme dessin, j'ai commencé à travailler en tant que graphiste, puis je suis passé éditeur et directeur de collection. Et en fait, à force de côtoyer des auteurs, de parler avec eux de scénarios, de narration, ça, bah, je me suis nourri, en fait, j'ai aussi appris avec eux. Et j'ai un peu lâché le dessin pour m'intéresser à la photo. Et c'est plutôt la photo aussi qui a été le déclic, en fait. Des documentaires photos, des choses comme ça. Notamment pour mon premier album, ça a été vraiment une série de photos qui a déclenché vraiment l'envie d'écrire.
Amélie, est-ce que vous conseillez d'ailleurs aux parents qui nous écoutent, pendant que leurs enfants lisent des BD, de continuer?
Oh ben oui, hein, je pense que c'est un très bon conseil.
À lire des BD, à en faire, à s'essayer à en faire?
Bah, disons que moi, c'est comme ça que je suis tombée dans le métier. Enfin, mon père était passionné de bande dessinée. Du coup, on avait une grosse bibliothèque familiale à la maison, avec tous les classiques. Et c'est ce qui fait que je suis tombée dedans. Donc, après, est-ce qu'il faut souhaiter aux enfants de devenir auteurs de BD? Je ne sais pas. Mais
c'est un beau métier.
C'est un beau métier.
C'est un métier difficile.
Mais c'est un métier difficile.
Amélie, vous dites j'aime les personnages secondaires étranges ou à l'air débiles. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous me regardez si bizarrement depuis le début de cette émission?
Est-ce que c'est pour ça qu'on est ensemble depuis 10 ans?
C'est un truc.
Il faut pas le prendre comme ça. Non, mais c'est vrai que j'aime bien les personnages auxquels on s'attend pas forcément, parce que les héros sont souvent parfaits, courageux, beaux. Et au final, ils en deviennent un peu fades. Mmh. Alors que les personnages secondaires, ils sont souvent un petit peu plus grotesques et avec des caractères, un peu plus étranges. Et c'est vachement plus amusant à suivre et à dessiner.
Alors, vous, Amélie, vous aviez certes un papa qui était fan de BD, mais celui qui vous a donné envie de faire ce métier véritablement, si j'en crois mes informations, c'est lui.
Expecto Patronum!
Harry Potter, évidemment. Sans ce petit sorcier, vous ne seriez pas venu en balai volant dans notre studio aujourd'hui, par exemple?
Ah, mais la plus grosse déception de ma vie, c'est de ne pas avoir reçu la lettre à 11 ans. Hein, parce que,
Pourquoi n'avez-vous pas reçu? Est-ce qu'il ne l'a pas envoyé?
Parce que je suis une moldue, quoi.
Vous êtes une moldue? Ok, j'ai un vampire et une moldue aujourd'hui dans ce studio, c'est bien. Bon, écoutez, nous allons parler de l'ambiance du quatrième tome de Bergère Guerrière avec Charline Roux qui va nous rejoindre juste après. Walking Downtown Pace, et c'est un morceau signé par Kay Coates.
I'm making plans for the day I love this is due.
Inter. Antoine Decaune. Pop.
Charline Roux. Elle fut bergère en Picardie, elle est guerrière depuis qu'elle vit à Paris. Harry Potter, c'est aussi sa passion. Bonjour Charline.
Bonjour.
Charline, vous êtes faites partie de quelle maison? Vous êtes plutôt Griffondeur, Poudsouffle, Serre d'Aigle, Serpentard?
Serpentard, évidemment.
Amélie?
Sans aucun doute.
Pareil, Serpentard.
Serpentard. Je crois que j'ai fait le test, c'était quoi?
Toi, t'étais Poufsouffle, je crois.
Non.
Ça, je comprends parce que personne n'a envie d'être Poufsouffle.
Personne. C'était pas Griffondeur, mais les autres.
T'étais peut-être Serre d'Aigle.
Serre d'Aigle, je crois que j'étais Serre d'Aigle.
Ouais, mais les Serre d'Aigle, ils sont un peu chiants.
Lovegood,
hein,
Serre d'Aigle,
c'est ça? Oui.
Ouais. Bon, ok. Charline, je vous présente donc Amélie et Jonathan, le scénariste et la dessinatrice du tome 4, enfin des trois précédents aussi de Bergère Guerrière. Qui dit tome 4 dit tome 1, 2 et 3. Pouvez-vous faire d'un coup de balai magique le résumé des épisodes précédents?
Dans un village majoritairement dépeuplé par les hommes, partis faire la Grande Guerre, en cours depuis 10 ans, les femmes se sont organisées. Pour le quotidien et pour le reste, elles ont fondé un ordre ayant pour mission de protéger les troupeaux et le village, les Bergères Guerrières. Et le premier tome s'ouvrait sur le grand jour pour la jeune Molly, celui de sa présentation, de son intronisation au sein de l'ordre. Bergère, dans l'imaginaire collectif, c'est la douce jeune fille qui garde les moutons, adossée à guerrière, ça donne une drôle de combinaison. Comment est née cette idée, ce concept, et de fait cet ordre 100% féminin? Quasi.
Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais été invitée à participer à un petit collectif d'illustration qui s'appelait Cavalerie, qui était menée par Faustine Tarmaz, une illustratrice. Et donc du coup, comme son nom l'indique, il fallait faire des cavaliers. Sauf que je savais pas dessiner les chevaux, ce qui était un problème. Mais je savais très bien dessiner les boucs et les moutons. Donc je me suis dit bon, bah je vais faire ça. Et puis bah qu'est-ce qui va bien avec des boucs ou des moutons? Bah des bergères. Donc j'ai fait des bergères un peu badass et je les ai appelées les bergères guerrières. Et puis bah à la suite de ça,
sinon vous auriez fait un western.
Probablement.
Ça se trouve, ouais. Ouais. Comme quoi, ça tient des fois pas à grand chose.
Bah, des lacunes en dessin,
voilà,
quoi.
Merci, tes lacunes en dessin. Ouais. Et ça, quand j'ai vu cette, il y avait quatre personnages, donc, qui sont devenus, en fait, Molly, sa mère, sa tante et sa grand-mère. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait déjà un côté clan, famille qui me plaisait bien. Et c'est vrai que, bah, on s'est posé la question pourquoi des bergères seraient devenues guerrières. Mmh. Et c'est vrai qu'il y avait un peu l'idée de, moi, c'est une thématique que j'avais envie d'aborder dans un livre, c'était ceux qui restent pendant les guerres. Mmh. Pas forcément voir les hommes partir au front, se battre, mais, bah, parler des femmes surtout, ouais, et des enfants, des anciens qui doivent rester, continuer de vivre, les femmes doivent s'occuper de leur famille, de travailler, enfin. Du coup, j'avais vraiment un axe qui me plaisait bien, en tout cas, il y avait un point de vue que je trouvais intéressant sur le sujet. Donc, il y avait un peu tout, en fait, on avait une thématique qui nous plaisait bien, des personnages qu'on trouvait déjà assez forts, et bah, ce côté aventure qui est initiatique assez classique, mais qui nous permettrait de faire une aventure en plus, voilà, de pas avoir juste un récit un peu moralisateur ou autre, mais voilà.
Une galerie de filles, de femmes, au caractère aussi différent qu'affirmé, la timide, la peste, la forte en tout, la dangereuse, ça a inspiré une question à l'experte de la maison mère, ma fille, ma bataille.
Est-ce que pour les personnages des BD, vous êtes inspiré des personnes que vous connaissez au quotidien, ou est-ce que vous êtes plutôt inspiré de caractères que vous avez vus dans des films ou dans des séries ?
Ça, c'est de la question.
Pour Molly, je te laisse donner une des inspirations.
Oui, c'est la série Park and Recreation.
Alors ça.
Donc Leslie Knope, voilà. Du coup, qui était la source d'inspiration principale pour Molly, pour son caractère hyper volontaire et toujours motivé.
Et un peu maladroit, enfin ouais. Hyper attachante en fait. C'est vrai qu'on regardait la série à cette période-là, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte à un moment, on s'est dit mais en fait Molly c'est elle en fait.
Ça c'est pour Molly et les autres.
Ouais. Alors pour Liam, le meilleur ami de Molly. Alors Amélie m'a fait remarquer qu'il y a un peu de moi, parce qu'il a une relation très fusionnelle avec son chien. Mm-hmm. Et Amélie m'a dit mais en fait c'est toi et ton chat. Ça,
attendez, vous êtes un vampire qui a une relation très fusionnelle avec son chien.
Okay. Avec mon chat du coup. Moi.
Avec votre chat.
Ouais, avec mon chat, voilà, okay. C'est ça.
Ok. Bon.
Et pour les autres, pas spécialement. Je pense que ça s'est fait assez naturellement par rapport aux besoins de l'histoire. Ouais. Enfin, souvent, on a besoin d'archétypes pour mettre en lumière les personnages, ou au contraire, enfin, voilà, montrer leurs faiblesses. Donc, le reste s'est fait assez naturellement, en fait.
Leslie Knope, donc.
Amélie, Jonathan, quand on dit qu'une œuvre est conseillée à un public de 8 à 12 ans, ça veut dire qu'on ne doit pas la lire si on est plus jeune ou plus âgé, ou qu'on risque de se transformer en malbête, par exemple ?
Ah non,
c'est dangereux. Ouais.
Non, pas du tout. On est vraiment sur de la BD pour les 7 à 77 ans, enfin, voire plus. Hein. Donc, il n'y a pas de limite. C'est tout public.
Bah, c'est vrai que de base, ça va être un peu dans ce créneau-là, parce que c'est à peu près l'âge des héros, entre le début et la fin de l'histoire. Mais c'est vrai que nous, on avait vraiment une volonté de faire du tout public, comme on en a lu à l'époque. C'est vrai qu'encore maintenant, dédicace, on demande ce que lisent les enfants. Il y a toujours Lucky Luke, Astérix, les Schtroumpfs. Enfin, en fait, des BD qui étaient vraiment familiales, et on avait cette volonté-là, en tout cas.
Évidemment, ces bergères guerrières ne vont pas rester au village, mais partir à l'aventure, puisqu'un péril menace le village et même toute la région. Une malbête, une créature magique et animale, mais ne spoilons pas tout. Les jeunes bergères guerrières vont donc devoir partir à l'aventure. C'est un récit initiatique, mais elles sont toujours accompagnées, épaulées par leurs aînés, les mères, les tantes, les grand-mères. Est-ce qu'on doit aussi voir dans cette saga une histoire de transmission ?
Oui, moi, c'est l'idée, clairement, comme je l'évoquais tout à l'heure, le fait que j'ai tendance dans la plupart de mes histoires à mettre aussi, donc pas que des enfants, mais aussi des adolescents, des parents, des grands-parents, parce que tant qu'enfant, on évolue. Enfin, moi, j'avais un grand frère, même à l'école, dès qu'on arrive dans le cours de l'école, on se projette un peu vers les plus grands, on a envie de taper dans la bibliothèque, un peu interdite des parents ou autre. Donc, je trouve qu'il y a toujours un côté, on se projette toujours un peu, et il fallait des personnages, justement, qui puissent servir un petit peu de modèle, de référence, en fait, pour les personnages enfants.
Mais parce qu'il n'y a pas de conflit de génération, quasiment pas, en tout cas, dans Bergère Guerrière. Ça se fait assez paisiblement.
Ah. Ouais, au début, il y a un peu entre Molly et sa mère. On a voulu justement d'avoir quelque chose d'assez réaliste, mais en fait, vu la situation, enfin, la guerre, les parents qui sont absents.
Non, mais c'est chouette, hein. Je sais pas du tout.
Non, mais effectivement, c'était pour nous l'idée de. Vu le contexte, on voulait pas faire quelque chose. Enfin, vu que les hommes sont pas là, les femmes, forcément, leurs maris sont pas là. Pour les enfants, leur père ne sont pas là. Donc, ça nous paraissait plus cohérent de faire quelque chose de plutôt.
Là, c'est bienveillant. Et puis d'éviter les enfants héros parfaits, en fait, qui règlent tout, qui sont meilleurs que tout le monde. Parce qu'au final, c'est assez insupportable et on a du mal à s'identifier en tant que lecteur.
C'est une BD, hein, Les Bergères Guerrières, qui est à la limite de la fantaisie et du fantastique. Jonathan, vous parlez même de médiéval fantastique. Alors, je vous en prie, développez un petit peu, parce que j'ai des images un peu étranges qui me viennent en tête immédiatement.
Alors, je suis pas un spécialiste, ça se trouve, il y a des gens qui vont m'écrire des messages insultants pour dire « Non, c'est pas ça ».
Mais moi, les messages sont souvent insultants,
malheureusement. Non, pour moi, il y a le côté médiéval où ça peut être assez réaliste, en fait. Ouais. Où on sent que, enfin, nous, c'est un peu ambiance celtique, en fait. Mais il y a ce côté du médiéval qui aurait pu exister, enfin voilà, qui pourrait presque être historique, dans lequel on va quand même mettre des sources un petit peu, enfin des choses un petit peu fantastiques. Et pour le coup, le fantastique vient pas mal d'Amélie. C'est vrai que de son univers, de son bestiaire, en fait, de son univers graphique. Donc,
de ce qu'elle s'est dessinée, si j'ai bien compris.
Aussi, voilà.
Exactement, ouais. Je reste dans ma zone de confort. Ouais.
Ah oui, vous avez des créatures comme ça étranges dans votre imaginaire, vous ?
Oui, alors c'est beaucoup plus simple d'imaginer des créatures que de faire des animaux réalistes. Mmh. Donc pareil, encore une fois, les lacunes, ça sert vraiment à construire un univers.
Absolument.
Une troupe de bergères guerrières, c'est déjà pas commun, mais vous ajoutez à ça une drôle de troupe d'hommes restant au village, ils changent les couches, ils se mettent à la couture, et par un habile retournement de situation, on se retrouve avec un personnage, le jeune Liam, dont vous parliez, qui lui rêve d'intégrer la troupe des filles, parce que c'est quand même elle les plus cool. La série a débuté, si je ne m'abuse, en 2017. Est-ce que l'idée était aussi au travers de la fiction de parler un peu de l'époque et de la puissance invaincue des femmes, comme dirait Mona Chollet ?
Tu veux... Bah, l'idée, c'était, ouais. c'était ça avec ce personnage de Liam, effectivement, d'avoir aussi un personnage. Alors, on estime que les petits garçons, les jeunes lecteurs, n'ont pas forcément besoin d'avoir un personnage masculin pour se projeter, mais quand même, ça peut aider. Et aussi le fait que Liam vive un peu la frustration au début de ne pas pouvoir faire partie de l'ordre, parce que c'est un ordre créé par les femmes pour les femmes, tout simplement, parce qu'au début, il n'y avait que des femmes. C'est un peu leur dire, bah, regardez, vous, dans la cour de récré, quand vous n'avez pas le droit, quand vous refusez aux filles voilà, de jouer au foot et tout ça, ils peuvent vivre la frustration de Liam, en tout cas, de ne pas pouvoir... intégrer l'ordre. Donc voilà, c'était cette histoire qui de jouer un petit peu là-dessus quand même, jouer sur ce côté féministe, mais que ce soit aussi accessible, enfin au niveau, on va dire des enfants, tout ce qu'ils peuvent vivre un peu au quotidien.
Ouais.
Donc, c'était un personnage qui nous permettait un petit peu d'introduire ça.
Mais pour autant, Amélie, si j'ai bien compris, il ne s'agit pas de dresser un portrait négatif des hommes ou des garçons, parce que bien au contraire, ils sont simplement mis en scène ou castés pour ainsi dire dans des rôles moins stéréotypés.
Oui, enfin, on voulait vraiment jouer aussi sur l'égalité des genres et des rôles, enfin, qu'il n'y ait pas de stéréotypes. Enfin, on a du coup ces jeunes hommes qui ont été élevés par des femmes et qui ont des modèles féminins forts et que ça dérange pas du tout. Et oui, et qui vont faire de la couture, mais qui vont aussi vouloir défendre le village. Enfin, c'est pas incompatible. Donc.
Bergère.
Ils sont rigolos, ils ont à côté les nouveaux papas. Vous savez, les manuels qu'on a sur les nouveaux papas, ils savent tout faire.
C'est un peu paumé, mais...
Bergère guerrière, c'est édité chez Glénat. C'est, on doit ça à Jonathan Garnier et Amélie Fléchet, qui sont nos invités aujourd'hui. On va continuer à en parler de ces bergères guerrières dans un instant, juste après un petit pop break, puisqu'il est 16h32, l'heure des pop news.
Préparez vos mouchoirs, vous allez forcément pleurer, de rire, c'est sûr, d'émotion sans doute, la troisième saison d'Afterlife arrive, une série signée Ricky Gervais dans laquelle le génie anglais campe un veuf qui, terrassé par la douleur, décide d'en finir mais se ravise et décide de vivre assez longtemps pour maltraiter ses semblables et punir le monde entier. Une série féroce sur le papier mais très tendre dans l'évolution de son personnage, enfin tendre à la Ricky Gervais. Dans la bande-annonce de la saison 3, on voit Tony, son personnage, partir en voyage pour répandre les cendres de son défunt père et dans cet extrait, c'est ce qu'il fait mais dans un pub.
What are you doing?
Just sprinkling a few of my dad's ashes.
On the carpet?
Yeah, it was his last request.
Oh, was it? Two of you, out. Take your rubbish with you.
Rubbish?
Ah, that bit went in my mouth.
Good. I hope that was his cock, you stupid cunt.
I hope that was his cock, you stupid cunt.
Et Afterlife, saison 3, ce sera le 14 janvier sur Netflix.
Vous connaissez ma passion pour la K-pop de Chinois à BTS, rien ne m'échappe. Je me devais donc, fidèle à ma réputation, de vous annoncer la naissance d'un nouveau groupe 100% féminin, un super groupe même, puisque certaines de ses membres ont déjà officié dans d'autres groupes de K-pop. Elle s'appelle Got The Beat pour Girls On Top Of The Beat et le titre de leur hymne c'est Step Back. Alors pour l'instant, le titre n'est pas accessible sur les plateformes, mais vous pouvez aller apprendre la choré et leur écouter sur la chaîne YouTube de Got The Beat.
Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé n'est en l'occurrence pas complètement fortuite. L'occurrence en question étant le film de Laurent Cantet titré Arthur Rimbaud. L'histoire de Karim D, jeune écrivain très prometteur, est déjà encensée par la critique jusqu'au moment où ressurgissent d'anciens et abjects écrits de nature twitterienne publiés sous l'alias d'Arthur Rimbaud.
Ah, donc voilà. C'est tout à fait mérité, hein. Votre livre est vraiment très fort.
Merci. Toi, t'as été très très bon. Hein.
J'ai lu le beau livre de Karim D et ne rêve que d'une chose, qu'on me l'offre une seconde fois.
Je change de statut, là.
Les éditions Glossier viennent de prendre connaissance des messages haineux rédigés par Karim D sous le pseudonyme d'Arthur Rimbaud.
Non, c'est pas que des tweets, ils sont relayés partout.
Ces messages datent du moment où j'écrivais sous un pseudonyme. Arthur Rimbaud, c'était de l'humour.
Je dirige une maison d'édition et vous venez de torpiller vos ventes.
C'est France Info, ils veulent Karim dans la matinale.
Voilà, ça commence.
Dans le rôle titre, Rabah Naitoufella, qui figurait déjà au casting d'Entre les murs de Laurent Cantet et Arthur Rimbaud, ça sortira le 2 février dans les salles.
France Inter. Pop. Antoine
Decaune. Le groupe de K-pop.
Exactement, ouais. Mais bravo.
Je sais pas si je suis gênée.
Non, non, bravo, petite Charline. Nous parlons aujourd'hui de Bergère guerrière, édité chez Glénat, et l'œuvre de Jonathan Garnier et Amélie Flèche.
Et c'est donc le tome 4, le dernier, la résolution, que vous publiez. Alors, nouvelle question de l'experte lectrice de 12 ans.
Est-ce que, pour l'histoire de la BD, quand vous avez fait le premier, vous saviez qu'il allait en avoir 4 et comment ça allait se terminer, ou est-ce que vous l'avez... Vous avez avancé au fur et à mesure sans vraiment savoir.
Ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous aviez l'idée de tout l'arc narratif ou pas ?
On avait les grandes lignes de l'histoire, mais au départ, on pensait juste faire 3 tomes. Et puis, au final, il y a quand même des choses qui se sont transformées et ajoutées au fil des tomes. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à 4 tomes, finalement.
On avait la fin. On savait comment ça se terminait dans tous les cas. Ce qui nous a permis de pas trop nous étaler non plus, de pas aller trop loin, nous disperser. Mais malgré tout, effectivement, on avait beaucoup de personnages, beaucoup de choses à traiter. Donc, ça a poussé vers 4 tomes, voire 4 tomes de 100 pages. Voilà. Ouais. Et j'ai trop écrit.
Dans quel état vous met la publication, justement, de ce dernier épisode ? Est-ce qu'il y a un peu de tristesse ?
Ah oui, moi j'ai eu un gros moment de dépression à la fin, parce que c'est une série qui nous a accompagnés pendant 5 ans, et en plus on vit ensemble, donc on en parlait tout le temps, quoi. C'était même trop fois.
De quoi allons-nous parler maintenant ?
Bah oui,
c'est le ciment de notre couple, là on sait pas.
Là on est au bord de la rupture, c'est compliqué. Donc, mais c'est vrai que les personnages étaient presque tangibles, on a dû leur dire adieu, et c'était un petit déchirement quand même.
Pareil pour vous, Jonathan ?
Oui, surtout qu'on a bossé vraiment, vu qu'on a rajouté des pages et tout, on y a passé tout l'été, c'était l'impression d'avoir des adolescents à la fin qu'on supportait plus. Et quand ils sont partis à l'internat, ça y est, la maison était vide, on s'est senti un peu vide, et puis voilà, on essaie de...
Nous, dans notre couple à nous de radio avec Charline, nous parlons de pop culture, et je sais que dans vos pop références, Amélie, on retrouve Hayako Miyazaki, Spike Jonze, Wes Anderson et bien d'autres. Dans quoi vous êtes-vous replongés tous les deux avant d'aborder ce quatrième tome ?
Bonne question.
Je vois que les bonnes questions laissent toujours interloquer.
Un petit peu, ouais.
Est-ce que vous êtes replongé d'ailleurs ou pas ? Ou est-ce que vous étiez déjà suffisamment dans l'ambiance ?
Je crois qu'on avait peur de se replonger dans Miyazaki parce qu'il traite de thèmes similaires par rapport à ce qu'on a évoqué.
Il nous a un peu plagié.
Et du coup, on avait très peur de re-regarder ses films et de se dire « Ah non, mais en fait, on a tout volé. »
Non, on avait toujours les mêmes références en tête, c'est vrai qu'on ne s'est pas spécialement plongé dans des choses, on a peu eu le temps déjà en plus. Mais non, j'avoue que...
Je n'ai pas souvenir.
Alors comme souvent dans les récits initiatiques, l'histoire avançant, le récit se fait plus inquiétant puisque les héros et les lecteurs grandissent. Comment est-ce qu'on dose la terreur que l'on peut, que l'on doit distiller dans la narration ? Comment est-ce que vous avez, vous, Amélie, par exemple, abordé les Malbêtes et autres passages un peu flippants ?
On a essayé de faire des choses pas trop glauques ou trop violentes, c'est sûr. Après, on s'est quand même permis de faire des choses effrayantes.
Bien sûr.
Parce que...
C'est bon d'avoir peur.
Ouais, voilà. Moi, je sais que les récits qui m'ont marqué dans mon enfance, c'est parce qu'il y avait quand même une dose, de choses effrayantes et sombres. Après, c'est peut-être dans l'écriture aussi que Jonathan a un petit peu mesuré.
C'est un vampire.
J'ai du mal à mesurer là-dessus. Non, mais c'est pareil, on ne s'est rien interdit. Ouais. Mais en fait, pour moi, les contraintes, c'était surtout d'amener ça intelligemment. Parce que pour moi, il faut se mettre à la place des persos et des lecteurs. Donc, c'est vraiment construire le récit pour que le moment voulu, les lecteurs soient dans le bon état d'esprit. En fait. Que ce soit amener de la comédie, quand on sait qu'après on va tout faire basculer dans de l'angoisse pour vraiment créer des contrastes, ou construire l'émotion sur une ou deux scènes, enfin vraiment amener les éléments qu'il faut. Donc non, mais pour moi c'est un peu de l'alchimie justement, l'écriture, c'est vraiment réussir à doser un peu tout ça en fait, pas juste dérouler son histoire, parce que sinon ça n'a pas grand intérêt, mais doser l'émotion surtout.
Et est-ce qu'on peut aussi voir dans toute cette saga comme une forme de conte à dimension écologique par endroit, ou est-ce que je me fourvoie complètement et ce serait pas la première fois?
Non, ça arrive plus sur la fin, par contre.
Oui,
c'est vrai
sûr.
Que c'est quelque chose qu'on a plus amené sur la fin, une des raisons de cette grande guerre. Mais pour nous, il y a de ça. Ouais. Après, on aurait peut-être voulu le mettre plus tôt, mais on voulait pas. On a déjà beaucoup de sujets assez forts, on n'a pas voulu non plus trop en faire.
Bien sûr.
Mais effectivement, sur la fin, ça. ça se révèle, sans trop en dire, on va pas
spoiler. No spoiler.
Voilà. Alors Jonathan, Amélie, nous l'évoquions tout à l'heure, hein, cette BD est imbibée de la potion magique d'Obélix et de celle d'Harry Potter. Astérix et Obélix sont bretons, l'école des sorciers d'Harry Potter est clairement en Écosse, et les bergères guerrières vivent dans un monde tout aussi franchement celtique. Selon vous, c'est l'héritage du roi Arthur ou un goût immodéré pour la bière qui explique ce tropisme?
Alors peut-être le roi Arthur pour moi et la bière pour Amélie.
Oh Amélie, ben, c'est
ça,
voilà,
balance, hein.
Ça balance. Pourquoi elle voit des créatures étranges?
Voilà, c'est ça.
C'est ma source d'inspiration
mais
principale.
Voilà, elle picole. Oh bah Amélie.
Eh oui, eh oui.
Alors on le disait, beaucoup de profils différents dans cette saga, ce qui nous vaut une dernière question de l'après-ado.
Moi je me sens Molly, mais dans la saga, vous identifiez plus à quel personnage?
En toute modestie, hein.
Ouais, vraiment. Moi, je suis l'héroïne, mais vous. Bah, comme je disais, moi, c'est peut-être Liam, pour ce côté
Liam,
un petit peu, ouais, un peu naïf, un peu l'attachement qu'il a pour son
mais très
cher.
Courageux en même temps,
oui.
Liam.
Alors, je l'étais pas autant, par contre. C'est vrai que je me serais basé sur moi-même enfant, ce serait pas allé très loin, parce que j'étais vraiment un petit pétochard. Amélie était plus brave que moi, enfant.
Et vous, Amélie?
Un peu, c'est un peu un mélange. Je dirais que petite, en tout cas, j'étais plus proche d'Erin, une des copines de Molly, celle qui a les grandes tresses, ouais. et le marteau, qui est assez timide, qui préfère louper les cours et qui espère que ses profs soient malades. C'était un peu mon enfance, mais qui y va quand même, au final.
Ouais.
Donc j'étais un peu comme ça, mais bon, après je me retrouve aussi un petit peu dans Molly, évidemment.
Alors pour finir cette saga donc en 4 tomes bergère guerrière, j'ai entendu dire qu'il était question d'un spin-off, comme on dit. Hein, c'est vrai ça ou pas?
Alors il y a l'idée, qui serait pas forcément dessinée par Amélie pour le coup.
Ouais.
Je crois qu'elle en a marre de dessiner.
Ouais, j'ai besoin de vacances.
On a marre de travailler avec Amélie, non mais dites-le.
Non, il n'y a pas de souci. Non, je pense que ce serait forcément en partie à l'écriture. Enfin, de toute façon, dans le fond, c'est aussi son univers. Même dans l'écriture, Amélie est beaucoup intervenue. Donc, mais ce serait plus sur justement le grand frère de Liam qui lui est parti à la guerre à l'époque, il y a 10 ans. Donc, ça me permettait. Je l'aurais pas forcément fait. Enfin, il n'y aurait pas besoin de lire Bergère pour comprendre ce spin-off ou inversement. Mais c'est juste qu'il y avait encore un point de vue qui m'intéressait par rapport à la guerre. C'est celui d'un adolescent qui part à la guerre, un peu à la fleur au fusil, qui va grandir d'un coup en se rendant compte de ce que c'est la guerre en fait, tout ce que ça implique. Donc, sans idée, c'est pas encore en chantier, mais il y a l'envie en tout cas.
Eh bien, voilà de l'info toute fraîche pour les fans de Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. C'est édité chez Glénat. Oh, mais attendez, quoi?
Il y a de la friture sur la ligne?
Oui.
Non,
oui.
Pas du tout.
Mais dans la suite de Pop Pop Pop, voilà ce que nous allons écouter.
Figurez-vous que j'ai été invité à la fête par erreur. Is it strange to dance so soon? Un coup de peau.
C'est fini les amis, revenez la semaine prochaine, vous saurez comment ma grand-mère a volé mes pères, les baise mon petit copain.
Cosmic Dancer de la série The Marvelous Mrs. Maisel de Die Hard, du livre de Takeshi Kitano, La vie en gris et rose, et de pop culture. Tout ça, ce sera après un peu de pop culture française qui sent bon la gitane.
Je t'en prie, ne sois pas farouche.
cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche.
L'eau à la bouche, voilà ce que nous mettait Serge Gainsbourg en 1960. Vous écoutez Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et ce son, c'est ce qui vous évoque la pop culture, Amélie Fléchet. Expliquez-nous pourquoi Jurassic Park.
Bah, en fait, c'est le film culte de mon enfance. C'est celui qui m'a le plus marqué. Et cette musique-là, bah, pour moi, oui, c'est ce qui représente le mieux la pop culture.
Et qui vous a flanqué une trouille bleue?
Ah, les deux. Enfin, c'est une époque où je voulais être paléontologue parce que j'avais été fascinée justement par le film. Je trouvais ça génial d'aller déterrer des os de dinosaures.
Et c'est pour ça que Jonathan porte un pull avec des dinosaures que vous pouvez voir sur franceinter.fr.
Ah, mais tout s'explique.
Voilà. Oui. Vous, Jonathan, je choisis par Amélie. Voilà. Ben,
ah oui, ça s'appelle une fixation, ça. Alors, vous, Jonathan, ce qui vous évoque la pop culture, c'est ce son-là. Eye of the Tiger, ça c'est pour votre côté fleur bleue, j'imagine.
C'est ça. Ouais. Voilà. Non, c'est que, alors j'avais hésité avec le thème vraiment écrit par Bill Conti, le compositeur. Ouais. Mais vous m'aurez peut-être dit, ah, vous êtes fan des grosses têtes. Ouais. Voilà, c'est le thème qui a été repris, donc je me suis dit, bon, on va prendre ce thème-là qui reste.
Le thème de Rocky, évidemment, c'est peut-être pour ça que vous êtes mis aux arts martiaux sur le tard, non?
Peut-être, ouais. J'aime la violence, en fait. Ouais,
très cette phrase.
Ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté, en fait, c'est une chronique sociale pour moi, avant même d'être un film de boxe, en fait. Un loser qui essaye de se prouver déjà, de prouver un peu au monde que c'est pas. C'est moi qui est autre chose qu'un loser. Ouais. Il y a aussi de la romance, une romance assez naïve, mais assez. Assez belle, en fait.
Moi, j'ai un convaincu, c'est un film exceptionnel.
Ça évoque plein de choses, en fait.
Bien sûr. Bon, Jonathan, Amélie, restons dans votre pop culture. C'est l'heure de votre pop list. Une pop liste croisée. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série. Jonathan Garnier, votre livre en ce moment, c'est celui de Takeshi Kitano, La vie en gris et rose. Charline, gris et rose, ce ne sont pas les premières couleurs qui viennent à l'esprit quand on connaît quelques films noirs de Kitano.
Oui, en effet, puisque Kitano, c'est le réalisateur entre autres de Sonatine et de Hanabi, et il raconte son enfance dans le Japon d'après-guerre. Une enfance en gris et rose, soit les couleurs que son père, peintre en bâtiment, essayait sur la porte de la maison avant d'en couvrir les murs de ses clients.
La vie en gris et rose de Takeshi Kitano. Jonathan, quand vous prenez le livre dans vos bras, qu'il vous parle tout bas, vous voyez la vie en gris et rose, c'est ça?
En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout Takeshi Kitano qui nous parle. C'est vraiment en fait une transcription, je pense, d'un dialogue, enfin voilà, de souvenirs d'enfance. Et bon, c'est vrai que voilà, ça se revoit un peu dans mes premiers projets, enfin mon première BD, c'est que je suis un peu fasciné par l'enfance. C'est vraiment une période où on vit les premières fois, en fait, le deuil, premier amour, les grandes amitiés, les trahisons aussi, de cours de récré.
Oh,
et en fait, il y a un peu tout ça, on voit, c'est un peu justement une vie miséreuse d'après-guerre, où il parle en plus, il a vraiment un franc-parler. Enfin, c'est un personnage qui me fascine un peu, Kitano, justement, dans ce qu'il peut faire. On le voit beaucoup par ses films, mais voilà, il a ses films qui peuvent être très violents, films de Yakuza, des choses beaucoup plus tendres, comme L'été de Kikujiro. Et à côté, au Japon, c'est une star pour tout ce qu'il a fait, vraiment, des émissions de télé, tout ça, donc... J'aime beaucoup le genre d'artiste vraiment qui touche à tout avec une sensibilité qui peut aller vraiment dans tous les spectres.
Amélie Fléchet, votre série du moment, c'est The Marvelous Mrs. Maisel. Charline, ne me dites pas que c'est encore une franchise Marvel House.
Non, je ne vous le dis pas, car ce ne l'est pas, Antoine. New York 1958, Myriam Midge Maisel a tout ce dont elle peut rêver, en tout cas sur le papier. Un mari parfait, deux enfants, un appartement génial dans l'Upper West Side. Mais un jour, elle se découvre un talent inattendu et très très hors époque pour le stand-up.
Écoutez, ça fait 15 ans que je bosse dans les clubs, ok? Deux fois, j'ai vu des gens faire le job.
Mais vous parlez de quoi, là?
De votre numéro.
J'ai pas de numéro.
Je suis mère de famille.
Super. Avec moi, vous en aurez un.
Salut tout le monde!
J'ai appris qu'une jolie fille des quartiers chics s'était fait coffrer en faisant de la scène.
Où est le crime, là-dedans?
Simulation d'un acte sexuel sur scène.
Le comique de stand-up, il faut que ça marche.
Et devoir compter jusqu'à 5! 1!
C'est fini, les amis! Revenez la semaine prochaine, vous saurez comment ma grand-mère 3. A volé mes pères, les baise mon petit copain!
Il est écrit que vous avez mimé une pute jouant avec des testicules.
Ah oui, ça,
oui, elle l'a fait, c'était vachement marrant.
The Marvelous Mrs. Maisel, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se lance dans les années 50 dans l'aventure de ce qu'on appellerait aujourd'hui le stand-up. C'est un peu une bergère guerrière de l'humour.
Bah, un petit peu, oui. On a découvert cette série-là sur le tard, mais c'est vraiment vachement bien. Mmh. Et justement, il y a ce duo de femmes, du coup, l'héroïne qui part un petit peu d'un quartier huppé, où elle, on l'imagine pas du tout faire ça, du stand-up, justement avec de l'humour un petit peu coquin, trash et tout ça. Et elle va tomber sur une autre nana, du coup, qui va prendre en charge sa carrière. Et leur amitié est vraiment super drôle. Et puis, bah, ça... Disons que par rapport à l'époque, c'est vraiment intéressant en plus de voir ces deux femmes qui vont réussir à s'imposer, qui vont faire face aux difficultés. Enfin, mmh. C'est vraiment très chouette. Et tous les personnages sont très très bien écrits en plus.
Marvelous, ouais. Mrs. Maisel. Ouais. Vous qui savez tout, Charline, ça se regarde où ça?
Sur Amazon, je crois.
Ouais, je crois, oui.
Sur Amazon, très bien. Jonathan, votre coup de cœur cinématographique du moment, et comme vous partagez avec Amélie, c'est votre coup de cœur à tous les deux, c'est Die Hard. Mais alors attention, 1, 2 et 3. Charline, laissez sortir le McClane qui sommeille en vous et briefez-nous.
John McClane est flic, tête brûlée, aime rien qu'à dire yippee-ki-yay et motherfucker, porter des Marcel blancs qu'il n'arrive jamais à garder complètement immaculés puisqu'il a toujours quelqu'un à sauver. Et dans le premier volet, c'est tout l'immeuble dans lequel travaille sa femme avec qui il aimerait bien se réconcilier.
C'est le soir du réveillon à Los Angeles. Le policier John McClane est venu de New York pour fêter Noël avec sa femme.
Tu m'as moqué.
En fait... Il est venu pour sauver sa femme.
Ils viennent déjà de tuer un otage.
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Il est dans l'immeuble, mais qui est-ce?
Je suis pas protégé.
Vous croyez avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy?
Yippee-yay, l'Indien.
Bruce Willis, piège de cristal.
Figurez-vous que j'ai été invité à la fête par erreur. Un coup de peau.
Bientôt sur vos écrans.
Alors, je vous imagine très bien tous les deux, hein, le couple Amélie Fléchet, Jonathan Garnier, devant votre poste, en train de regarder Die Hard 1, 2 ou 3, alors que vous êtes mis tous les deux aux arts martiaux. Ça donne quoi?
Ça vous a motivé, ouais. On a envie de sortir dans la rue et de casser des bouches.
Ouais.
Non, en fait, on s'est un peu... Alors, j'avais vu le premier, toi, je sais plus.
Moi, ça faisait très longtemps que j'avais vu le premier, mais je sais plus si toi, t'avais vu le 2 ou 3.
Non, j'avais pas vu, en fait. Ouais. On cherchait un peu des films de Noël, en fait. On revient beaucoup vers les films des années 90, Retour vers le futur, les Gremlins, enfin, tout... Voilà, ce qui ne déçoit jamais, en fait. Et c'est vrai qu'on les a un peu redécouverts. Enfin, redécouvert le premier, découvert, c'est vrai que... Bah, ça marche toujours, quoi. C'est hyper efficace. Enfin, le personnage est...
Et très drôle, en plus.
C'est drôle, ouais. Et pour le coup, la VF, en plus, aide bien, je trouve. Elle apporte un côté un peu comédie, enfin, un peu plus...
Oui,
personnage, ouais.
On a regardé le premier en VO, et en fait, c'est vachement plus premier degré
Vous avez été déçu
pour une fois, presque.
Presque, ouais.
C'est vrai qu'il est doublé, il a cette petite voix un peu fragile.
il est touchant, ouais.
Bon, Amélie Fléchet, votre chanson du moment date de 1971, mais j'imagine que c'est en ce moment que vous l'écoutez. Cette chanson, c'est Cosmic Dancer, T-Rex. Et avant d'écouter le morceau, expliquez-nous ce choix.
J'aime bien travailler en musique. Mmh. Et en ce moment, du coup, on cherche un petit peu des pistes pour de nouveaux projets.
Attends, des T-Rex, dinosaures.
Oui, en plus. Il y a un lien, forcément, évident.
Ouais, oui.
Et c'est la chanson qui m'inspire. Je saurais pas trop dire pourquoi, mais je pense qu'elle me fait beaucoup penser, du coup, au film Billy Elliot, ouais. Forcément. Et j'ai un petit peu cette envie de faire un récit qui soit dans cet esprit-là. Donc voilà, c'est pour ça.
Voilà une chanson qui inspire tout le monde. Vous allez le vérifier pas plus tard que tout de suite. Allez, T-Rex.
I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. Myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Strength to dance so late. Is it strength to dance so late? strange to dance so soon. I dance myself into the tune. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? Myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tune, and then again once more. I dance myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Strange to dance so soon. I dance myself out of the womb.
T-Rex, Cosmic Dancer, c'était en 71 et aujourd'hui dans vos oreilles, chères popopiennes et popopiens, car c'était la recommandation d'Amélie Fléchet. Je peux vous livrer un petit scoop, j'étais à la batterie sur ce morceau, oui, c'était moi.
Non.
Non. Amélie, venue nous parler avec Jonathan Garnier du quatrième tome de Bergère Guerrière qui est à retrouver aux éditions Glénat et qui est évidemment chaudement recommandé par Popopop. Merci à tous les deux d'être venus nous voir.
Bah, merci pour l'invitation.
Oui, merci.
Et de vous être déplacés de Nantes. Mais merci, je suis très sensible. Et merci Charline.
Merci à vous.
À demain. Et merci à toute l'équipe de Popopop et à Clément Berman qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans Popopop, Christian Heck et Valérie Lessort nous font voyager avec le Voyage de Gulliver, leur adaptation du roman de Jonathan Swift au théâtre. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Popopop.